ce 9 octobre, on commémore dans certaines régions un saint auquel on ne pense jamais. Et pourtant, c'est saint Abraham, le père des croyants. Chose curieuse. Abraham lui-même, oui. On dit bien que parmi les saints de l'Ancien Testament, saint Abraham, car on peut les appeler ainsi, hein, et celui dont le culte est le plus anciennement et le plus largement attesté. Et pourtant, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? C'est très curieux. Et un bon jour, je vous parlerai de lui, évidemment, d'une façon sérieuse, parce que c'est l'homme qui, à la demande de Dieu, part. Il va. Il va là où Dieu l'appelle. Je dirais que c'est le saint de la vocation, et nous sommes tous appelés. De par notre baptême, nous sommes appelés à quoi? Bien, cette émission-là le signale. Nous sommes tous appelés à une chose qui est bien difficile et à laquelle on ne pense pas suffisamment, je pense. C'est nous sommes appelés à la sainteté. Oh, j'imagine qu'il y en a qui protestent, là. Il n'y a aucune raison de protester. Nous sommes tous appelés à la sainteté et on peut le voir aujourd'hui, non pas seulement par Saint-Denis, le premier évêque de Paris, dont la vie est un peu mythique, parce qu'on n'a pas grand-chose vraiment à dire à son sujet, si ce n'est que cette chose absolument étonnante, la légende s'est emparée des images qu'on a faites de lui, et on rapporte qu'après sa décapitation, il a transporté sa tête dans ses mains. C'est probablement que la statuaire, les statues, ne le présentait ainsi, et on a inventé cette histoire de toute pièce. Mais c'est possible aussi qu'un saint puisse être décapité et porter sa tête. Pourquoi pas? Tout est possible grâce à Dieu. Et Dieu a fait de tels miracles dans l'histoire, même au XXe siècle. Je vous en ai déjà raconté des roulées à Lourdes. Je vous en raconterai vraisemblablement un mercredi, un miracle assez étonnant qui s'est opéré à Lourdes. C'est aussi la fête d'un saint qui a vécu au XVIe siècle, pardon, Saint-Louis Bertrand. C'est un nom qu'on pourrait voir au Québec, ce Saint-Louis Bertrand. C'est un dominicain. Et un dominicain qui était d'une générosité extraordinaire à l'égard des pauvres. Mais je voudrais vous parler plus particulièrement, de martyr récent. Martyrisé en 1934, ce sont des frères des écoles chrétiennes, donc d'une certaine façon des laïcs, mais religieux, qui ont fait des vœux, car vous savez que dans l'Église, on considère comme clercs seulement les prêtres qui sont ordonnés. Tous les autres sont des laïcs, dont certains ont fait des vœux, comme des religieuses, et les religieux frères. Et ce sont des éducateurs espagnols qui ont été martyrisés d'une façon absolument étonnante qui mérite d'être racontée. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ces martyrs ont été béatifiés le 29 avril 1990 à Rome. Et au moment de leur béatification, le frère Gérard Champagne me disait hier au téléphone, lui qui est frère des écoles chrétiennes, qu'un miracle se serait déroulé sur la place Saint-Pierre même. Et ce miracle est étudié et analysé, il semble bien authentique, et permettrait vraisemblablement la canonisation de ces frères qui ont été tués, assassinés de façon insensée, en compagnie d'un passionniste, un prêtre qui était arrivé la veille pour les confesser et célébrer la messe. En somme, l'Église a élevé, comme on dit dans une expression très traditionnaliste, aux honneurs des autels, ces 9 religieux, dont un prêtre, qui sont morts martyrs au cimetière de Turon. C'est dans les Asturies, ça, en 1934. C'était au cours de cette révolution particulière des Asturies. Les Asturies sont une région montagneuse du nord de l'Espagne, disons au nord du Portugal. Quand on regarde la péninsule ibérique, on constate qu'il y a le Portugal séparé de l'Espagne, presque un pays séparatiste dans un sens, et qui sont fiers d'être portugais, n'est-ce pas? Puis au nord, là, il y a les Asturies. C'est une très belle région montagneuse avec de très belles vallées, c'est magnifique. Et les martyrs sont restés fidèles à leur consécration religieuse au point de donner leur vie vraiment, en défendant leur foi. L'Église nous les propose comme modèles d'éducateurs chrétiens, car ils étaient réputés dans leur région comme d'excellents éducateurs chrétiens. C'est un fait qui devrait nous saisir aujourd'hui, alors que les écoles sont devenues de moins en moins chrétiennes et qu'on songe d'ailleurs à les supprimer, à supprimer toute formation chrétienne dans les écoles, ou à peu près toute formation chrétienne. Et je me demande si c'est une bonne chose pour un peuple que de se débarrasser ainsi de valeurs proprement chrétiennes et d'une conception de la vie qui permet à certaines personnes comme ses frères de mourir comme ils sont morts, et vous verrez tout à l'heure comment ils sont morts. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, il me semble, moi c'est mon avis, ont besoin d'éducateurs véritables. Des éducateurs qui, en bonne partie, seront des chrétiens. Quand je dis véritable, il peut y avoir des éducateurs incroyants qui sont des éducateurs véritables. Mais je crois que des éducateurs chrétiens peuvent ajouter quelque chose. Car ils transmettent le message de Jésus-Christ, ils savent donner par eux-mêmes une image de ce que c'est que d'être chrétien. Je me souviens dans mon enfance, les frères de Saint-Gabriel et les jésuites par après au collège Brébeuf, qui m'ont éduqué, m'ont en bonne partie émerveillé par leur renoncement, leur consécration, leur désir de bien faire. D'accord, il y en a eu quelques-uns qui n'étaient pas aussi sympathiques. Mais c'est si intéressant, il me semble, et beaucoup plus intelligent, de songer à la grande majorité de ceux qui ont été merveilleux. Nombreux sont les éducateurs chrétiens, d'ailleurs, à cette époque, et encore aujourd'hui, je crois, qu'ils savent parler du Christ. Il n'est pas fréquent d'en rencontrer, cependant, qu'ils soient capables de donner leur vie pour lui, jusqu'aux plus extrêmes conséquences, jusqu'aux martyrs. Les jeunes d'aujourd'hui, d'ailleurs, n'accordent leur attention puis leur enthousiasme qu'aux grandes âmes dont on peut parler dans une émission comme celle-ci. Parce que vraiment, là, ils ont des témoins, et c'est ce qui manque peut-être dans leurs écoles, des témoins. Des gens qui sont consacrés, qui craignent pas de risquer leur vie pour la défense de ce qu'ils annoncent par leurs paroles. Hein. Donc les 9 religieux qui sont morts aux premières heures du 9 octobre 1934 ont été conduits devant une fosse, creusés dans un cimetière, d'où ils pouvaient voir leur école, pour le seul fait d'avoir été des éducateurs de la foi. Et cela, ça constitue un appel vibrant, il me semble, au sens de l'éducation chrétienne. Vous le verrez tout à l'heure. Des prêtres, des chrétiens militants avaient été arrêtés avec eux, mais eux seuls étaient coupables de ce délit impardonnable. Ils étaient des éducateurs religieux. Ils avaient enseigné aux élèves à prier Dieu. Ils avaient annoncé à ces jeunes enfants et à ces jeunes gens le message de Jésus. Et ils sont morts à cause de ce délit épouvantable. Mais c'est invraisemblable. Hein? Dans l'esprit de ceux qui ont creusé leur tombe et qui les y ont jetés après avoir déchargé leurs armes sur eux, là, ils se sont versés. C'était la conclusion d'une phase de l'histoire et ça terminait la formation chrétienne des enfants dans cette région. Mais dans le plan de Dieu, c'était tout le contraire. C'était un appel phénoménal, destiné à réveiller la foi et l'espérance chez tous ceux qui ont eu le bonheur de connaître leur histoire. Et c'est pour cela que l'Église les présente comme des témoins remplis de lumière, des modèles de dévouement à la tâche difficile, extrêmement difficile, de l'éducation chrétienne des gens. Ce sacrifice des premiers martyrs espagnols, ce sont les premiers à avoir été martyrisés dans les années 30. La guerre civile n'a vraiment commencé que 2 ans plus tard. Ils appartenaient, comme je vous ai dit, à l'institut qu'on appelle des frères des écoles chrétiennes. Je vous ai déjà parlé du frère Théophanius Léo, qui, malgré son nom Théophanius, les pauvres frères ont souvent des noms curieux, a été un frère admirable chez les frères des écoles chrétiennes. Mais je vous ai surtout parlé de Saint Jean-Baptiste de La Salle, ce prêtre qui les a fondés il y a déjà plusieurs siècles. Alors, il n'y a aucune autre religion de l'Espagne qui était aussi pénétrée de l'esprit de Saint Jean-Baptiste de La Salle que cette province qu'on appelle les Asturies. Dans cette principauté, c'était une sorte de principauté, on trouvait ses frères depuis 1902. Et au moment de la Révolution, il y avait 55 frères qui se dévouaient dans 14 écoles. Et qui s'avaient rassemblés autour d'eux d'autres éducateurs chrétiens. Les méthodes éducatives venues de Saint Jean-Baptiste de La Salle et améliorées à travers les siècles en faisaient d'eux d'ailleurs de très grands éducateurs. N'oublions pas qu'à la même époque, nous avions ici le frère Marie-Victorin qui a fondé le Jardin botanique. C'est un frère des écoles chrétiennes. Il y avait à Québec cet intellectuel de très grande envergure, cet homme de lettres, le frère Clément Lequel. Et il y avait de nombreux autres frères qui enseignaient au Mont-Saint-Louis et qui avaient une réputation d'être d'excellents éducateurs. Les méthodes avaient gagné le cœur des Asturiens, leurs méthodes, parce qu'ils étaient généreux et toujours prêts à témoigner de leur affection. Et puis, pour le peuple, et en retour, ils avaient beaucoup de reconnaissance de la part du peuple. La diffusion de certaines théories qui visaient à faire du monde ouvrier le monde qui mènerait l'univers engendrait des journées de tension dans ces vallées minières où les mineurs étaient souvent fort maltraités. Au milieu de tout ce bruit, les frères cherchaient à vivre en silence, continuait à se sacrifier quotidiennement au service éducatif des plus pauvres. Et partout, des milliers d'anciens élèves qui avaient appris dans leur classe à lire, à penser, à chanter, à prier, conservaient envers ses frères une profonde affection, une grande, grande reconnaissance. Et les forces du mal voyaient d'un mauvais œil, on peut dire, ces sentiments nobles et profonds. Car il y a toujours dans la société une minorité de gens qui sont comme pris d'un complexe anti-religieux qui les mène aux pires excès. On a pu le voir il n'y a pas si longtemps devant l'église Notre-Dame. Il suffit de quelques meneurs, mais en première ligne de leurs objectifs de destruction, ces gens-là ont placé l'école des frères de Turon. Et la même chose aurait pu se produire en beaucoup d'autres endroits. C'est le 14 avril 1931 qu'avait été proclamée en Espagne la Seconde République au milieu des promesses de changement, d'amélioration du sort des ouvriers. Et la franc-maçonnerie, ça existe la franc-maçonnerie, il ne faut pas se faire d'illusions. Et le communisme grandissant, c'était deux forces qui les plus actives dans le panorama international de l'époque, cherchaient à s'emparer du pouvoir pour libérer les ouvriers. Les francs-maçons aspiraient plutôt, eux autres, à guider les groupes d'intellectuels pour finalement dominer les masses. Les communistes, eux, estimaient qu'il était venu le moment d'opérer une transformation radicale de toutes les structures sociales et économiques, dans un esprit qui n'est pas loin de l'Évangile, au fond. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas penser que le communisme, ce n'est qu'une horreur. C'était aussi des gens qui cherchaient à faire du bien. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. On le voit bien que ça n'a pas marché du tout. C'est disparu, pour ainsi dire, dans l'horreur. La Constitution de la République espagnole les diverses lois qui l'accompagnaient, se révélait non seulement injuste, mais également très oppressive à l'égard des ouvriers. Les premières désillusions ont donné naissance à des réactions de vengeance, de violence. Et lors des élections de 1933, bien, les partis de droite ont obtenu la majorité, mais se préparaient à assumer le gouvernement du pays. Mais là, les représentants politiques et syndicaux de la gauche ont menacé alors de faire éclater la révolution des ouvriers, des prolétaires, si ce gouvernement de droite était formé. Et le 4 octobre 1934, mais bon, on approche, le martyr a eu lieu 5 jours plus tard. Donc, le 4 octobre 1934, le nouveau chef du gouvernement, M. Leroux, du Parti radical, a confié 3 ministères à la Confédération espagnole de la droite autonome. Et ça, c'était le moment attendu. Dans tout le pays, se produisirent des tentatives là, pour faire éclater la révolution, qui était préparée soigneusement par les dirigeants politiques et syndicaux, dont le leader national était Francisco Largo Caballero. Alors, il y a eu des désordres un peu partout, mais c'était rapidement réprimé par les forces de l'ordre. Et la grève générale a cessé au moment même où l'attention de toute la nation espagnole se tournait vers les Asturies. Et là, les masses ouvrières ont réussi rapidement à prendre le contrôle des vallées minières et des zones industrielles pour se lancer ensuite à la conquête d'Oviedo, qui était le chef-lieu de la région. Et là, face à la gravité des événements, eh bien, l'état de guerre fut déclaré dans toute l'Espagne. Les forces armées, placées sous les ordres du général López Ochoa, et dirigées de Madrid par le général Francisco Franco, que vous connaissez, rapide urgence à la capitale, se sont dirigés vers les Asturies pour étouffer la rébellion qui commençait. Et une partie des troupes a débarqué, et une autre s'est dirigée vers un col, le col de Pajares. Et environ 50 000 mineurs et ouvriers avaient pris les armes. C'est du monde, ça. Et dans les divers endroits où ils devenaient les maîtres de la situation, ils imposaient aussitôt leurs organisations révolutionnaires. Quel catholique sincère s'opposerait à une rébellion de ce genre? Après tous ces mineurs étaient exploités. Et nous devons prendre garde de juger trop rapidement. Hein? De nombreux édifices ont été détruits par les flammes ou les explosions. C'est pas que nous, chrétiens, devons accepter la violence. Mais nous sommes capables de comprendre quand même que des gens soient révoltés. Mais là où la révolution mène, nous ne pouvons pas suivre. Quand elle mène au désordre et surtout au meurtre. Alors, de magnifiques œuvres d'art, comme celle de la cathédrale d'Oviedo, c'est un joyau de l'art romance, a été détruit. L'université, le palais épiscopal ont été ruinés. L'université, c'est-tu fou, hein? Les vengeances, les saccages se sont multipliés sans que les dirigeants du mouvement révolutionnaire puissent les empêcher. Ramón González Peña, qui commandait la zone de Mieres, et Bernardino, on reconnaît le nom du cardinal Bellarmine, Robert Bellarmine, et Bellarmino Thomas, dont l'autorité s'étendait sur la vallée où étaient les frères, ont lancé continuellement des proclamations accompagnées de menaces et de récriminations à l'adresse de ceux qui ne respectaient pas la discipline et l'ordre révolutionnaire qu'ils voulaient instaurer. Ces gens-là voulaient une révolution paisible et chrétienne dans un sens. Mais malheureusement, leur voix se perdait dans la confusion des masses, qui échappaient à tout contrôle. Car les masses deviennent violentes. N'oublions pas ce qu'on a vu devant l'église Notre-Dame. C'était une petite mesure, ce qu'on a vu. Et quand ça devient très fort, là, c'était 50 000. Alors, la progression des troupes militaires faisait comprendre aux plus responsables de toute cette aventure du soulèvement qu'on s'en allait vers un désastre. Et là, le 12 octobre, ils ont décidé d'arrêter la révolution, puis ils ont envoyé des ordres aux divers comités locaux pour qu'ils se replient vers les vallées minières, et beaucoup d'entre eux refusèrent d'obéir, et les membres les plus en vue du Parti communiste ont pris le contrôle de l'insurrection. Et cette attitude désespérée a prolongé les luttes et les souffrances de la population pendant une semaine encore, et les combats cessèrent finalement après un accord entre le général López Ochoa et le chef rebelle Belarmino Tomás. Le 19 octobre, les troupes prirent le contrôle de toute la région, mais il était trop tard. Le 14, eh bien, c'est-à-dire le 9 octobre, avait eu lieu le massacre. Dans les rues, surtout à Oviedo, et sur les routes, gisaient plus de 1000 morts. Les hôpitaux étaient remplis de milliers de blessés. Ce qui avait fait impression dès le premier moment, c'était l'agressivité manifestée à l'encontre des prêtres puis des religieux. Je vous en parlais tout à l'heure. Cette étonnante agressivité. On ne pardonne donc pas à un prêtre ou à un religieux de ne pas être un bon prêtre et un bon religieux, et on généralise par la suite. Et on applique à tous les prêtres et à tous les religieux les péchés de certains d'entre eux. Beaucoup de ces prêtres et de ces religieux furent arrêtés, enfermés, sans aucune explication, dans des prisons improvisées. D'autres furent consignés dans leur maison. C'est ce qui arriva à la plus grande partie des frères qui se trouvaient dans les zones minières des Asturies. Et là, le tribut du sang versé par les prêtres et les religieux a été vraiment élevé, hein, surtout si l'on tient compte de la façon dont s'est produit leur mort. Il est juste de rappeler le sacrifice des 6 séminaristes d'Oviedo abattus dans une ruelle d'Oviedo le dimanche 7 octobre, 2 jours avant nos frères des écoles chrétiennes. 2 jours auparavant, le 5, au début des désordres, avait eu lieu l'assassinat de 2 jeunes passionnistes. C'est une communauté peu connue ici, qui cherchaient à s'éloigner de leur maison de Mires, assaillis par la foule. L'un d'eux, Amadeo Andrés Celada, avait été élevé par les frères des écoles chrétiennes à Santander. Lorsque le frère Chirilo s'y trouvait comme directeur de l'école du cercle catholique. Et on verra tout à l'heure ce qui est arrivé au frère Chirilo. Dès la fin du 19e siècle, Turon, où étaient ses frères, était devenu une vallée minière où abondaient les ouvriers immigrés, nés de partout. Tout en sauvegardant leur dignité, leur solidarité, les habitants étaient marqués par la dureté des travaux de la mine. Et l'esprit de Saint Jean-Baptiste de la Salle, le fondateur providentiel des écoles populaires, les avait atteints. Et depuis 1919, bien, fonctionnait l'école Notre-Dame de Covadonga, fondée et soutenue par la Société des Houlières ou des Houillères de Turon. Et les enfants des mineurs et des employés de la société s'y rendaient en masse. Et la population était satisfaite de l'enrichissement culturel apporté par les frères. Il leur en était reconnaissant. Et cette formation, curieusement, mène à un moment donné, par l'instruction, à une révolte saine au début. C'est sain de se révolter contre les injustices. Toute la Bible est pleine de cette révolte des pauvres au nom de la justice. Et Dieu veut la justice. Dieu veut la justice. Et dans l'amour. Notre religion chrétienne est fondée sur la justice et l'amour. Et lorsque les circonstances économiques et politiques ont aigri les esprits et les relations de ces ouvriers, bien, les ennemis de l'éducation chrétienne se sont multipliés. Ils ont multiplié surtout leurs démonstrations d'aversion, y compris dans cette partie des Asturies, et les obstacles se multipliaient. Les épisodes de tension, de polémique surgissaient partout. Et en 1934, 8 frères travaillaient à Turon. 6 d'entre eux s'y trouvaient depuis une année. Ils étaient arrivés là lorsque la loi sur les congrégations et associations religieuses avait interdit l'enseignement aux religieux. Et nous verrons tout à l'heure tout le développement de cette haine contre les religieux. Alors, la plupart n'étaient pas là depuis bien longtemps. Plusieurs venaient d'arriver même dans à Turon, n'est-ce pas, en Espagne. De toute façon, leur travail était vraiment méritoire. Ils avaient 350 élèves de 5 à 14 ans. Et puis, l'école avait déjà vu passer dans ses classes des milliers de jeunes de la vallée. Elle était également le siège de plusieurs associations d'élèves et d'anciens élèves. Mais la plus remarquable, bien, c'était celle de la jeunesse catholique. Et toutes ces associations déployaient une activité d'évangélisation assez remarquable. Et le mouvement révolutionnaire, lui, commença dans la nuit du 4 au 5 octobre 1934. Il devait durer 15 jours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça a laissé une empreinte sanglante dans les vies, les cœurs, les souvenirs. Et à l'aube du 5 octobre, sans laisser à quiconque le temps de chercher refuge, on a commencé à arrêter, sur ordre du comité local, des personnes de plus en plus... et des personnes remarquables, hein? Les dirigeants de la société qui dirigeaient les mines, des militants politiques de droite, les membres de certaines associations catholiques, ainsi que les prêtres de toute l'agglomération, dont l'aumônier de l'école. Et alors qu'elle retournait à la maison du peuple transformée en prison, mais la belle-sœur de l'aumônier, qui lui avait apporté des médicaments et d'autres affaires, et passer par la maison des frères pour les avertir de ce qui arrivait et leur suggérer de se cacher pour ne pas être arrêtés à leur tour. Et les frères avaient déjà terminé la prière du matin et se préparaient à assister à la messe. Or, cette nuit-là, il y avait le père Innocenzio della Immaculata, ou si vous voulez, Innocent de l'Immaculé. Quel étrange nom, hein? Et c'était un passionniste de Mires, un religieux passionniste. Il était resté avec la communauté. La veille, il avait confessé les garçons de l'école en préparation à la célébration du fameux premier vendredi du mois. Les gens plus âgés savent ce que c'est une façon d'honorer plus particulièrement, n'est-ce pas, le cœur de Jésus, son cœur plein d'amour. Et ce premier vendredi du mois tombait le 5 octobre. Alors, estimant qu'il ne servirait à rien d'abandonner l'établissement, les frères ont décidé de commencer immédiatement l'Eucharistie. Ils en étaient à l'offertoire lorsque de violentes vociférations ont retenti dans la cour de l'école. Une trentaine de personnes armées de fusils venaient d'arriver et frappaient furieusement à la porte. Et là, le père Innocenzio demanda alors aux frères de l'aider à consommer les saintes espèces pour éviter le risque d'une éventuelle profanation du corps du Christ. Et les assaillants ont envahi la maison et se sont livrés à une minutieuse inspection. Sous prétexte de chercher des armes, évidemment, qu'auraient cachées les jeunes de l'Action catholique. Évidemment, ils n'ont rien trouvé. Ça ne les a pas empêchés de causer bien des dégâts, et finalement, ils ont signifié aux religieux qu'ils étaient arrêtés. La première chose que firent les geôliers, ce fut d'obliger le père Innocenzio à enlever l'abbé religieux des passionnistes qu'il portait. Cela les irritait, ça les fatiguait de voir cette soutane. Et le frère directeur a demandé que l'on fasse venir de la maison des frères l'un de leurs costumes. Ce souhait fut accueilli. Et le père Innocenzio put se changer pour s'habiller en laïque. Quand on parle de costume d'un habit, comme on dit ici. Et les frères sont restés 4 jours sous la surveillance menaçante de ces hommes un peu enragés. Leur résignation était remarquable, et ça a réconforté les autres prisonniers qui, par la suite, ont conservé le souvenir du courage des frères et de leur sérénité qui les avait profondément impressionnés. Et le premier jour, personne n'a songé à leur porter de la nourriture et eux-mêmes n'en demandaient pas. Mais par la suite, c'était M. Del Riego, le directeur de la société minière, qui y a pourvu. Il était détenu dans une pièce voisine. Il a donné l'ordre de leur faire porter des aliments provenant de la cantine, n'est-ce pas, de la société. Ce qui fut fait d'ailleurs. Et la compagnie des prêtres et de plusieurs jeunes rendait moins insupportables ces jours de souffrance. Ensemble, ils récitaient le chapelet. Ils parlaient de l'éventualité qu'ils seraient tués en tant que religieux, ce qu'ils évoquaient avec une grande tranquillité, et même avec un peu de joie. Et la veille de leur mort, ils ont reçu la visite de divers membres du comité révolutionnaire, donc Ceferino Alvarez Rey, qui déclara être un ancien élève très reconnaissant envers les frères, imaginez. Son rôle consistait, lui, à se renseigner si le frère Marciano, le cuisinier de la communauté, était un religieux ou un simple employé. Il devait également vérifier le nom exact des autres et leur situation. Alors là, le sujet de la conversation et le ton des questions leur firent pressentir l'imminence du danger. Ils ont décidé de se confesser pour se préparer à ce qui pourrait leur advenir. Et c'est avec ferveur qu'ils le firent. Et leur exemple a encouragé les autres détenus à les imiter. Et là, le curé, Don José Fernández, et son vicaire, Don José Manuel Álvarez, écriront quelques jours plus tard, une fois les confessions terminées, une joie céleste envahit toutes les personnes présentes. Ils n'avaient plus peur de la mort. Tous étaient résignés à la volonté de Dieu et sûrs qu'il userait, que Dieu userait de miséricorde envers eux au cas où leur crainte s'avérerait fondée. Il semblait que la dernière nuit se passerait comme les précédentes et pour dormir, ils s'étendirent par terre ou sur des tables de classe. Et pendant ce temps, ceux qui devaient exécuter la sentence que prendrait le comité se réunissaient à l'école voisine, et là, certains membres, dont Leoncio Villanueva, chef de la loge maçonnique locale, n'étaient pas favorables à une exécution. Hein? Le chef des francs-maçons n'était pas favorable à une exécution. Faut pas oublier ça. Non pas que je sois en faveur des francs-maçons. Il faut donner aux gens que l'on n'aime pas nécessairement des choses bonnes quand elles sont là. Et vainquant leur résistance, et bien qu'ils n'aient pu trouver à Turon un nombre suffisant de volontaires, Silverio Castagnon avait recruté à Mires un groupe de fusilières. Sourd à tous les arguments et plein d'insolence, ce bonhomme avait repoussé plusieurs requêtes de clémence. Et redoutant les réactions violentes, bien là, il a dressé un plan avec beaucoup d'astuces pour l'exécuter en cachette et de nuit. Et ce 9 octobre 1934, il y a 61 ans aujourd'hui, j'avais 8 ans. Cinquième jour de la Révolution. Une horloge de Turon venait de sonner 1h du matin. Et là, la porte de la salle où se trouvaient les détenus s'est ouverte brusquement, et dans l'encadrement apparurent les silhouettes sinistres de Silverio Castagnon et d'un autre révolutionnaire, surnommé El Casin. Et tous dormaient, sauf le frère directeur Chirilo et le curé Don José, qui parlaient à voix basse. « En voilà deux, » dirent-ils. Ils leur ordonnèrent d'ôter leurs manteaux et de leur remettre tout ce qu'ils possédaient. Peu à peu, tous les autres se réveillèrent et furent obligés de faire de même. Et là, ils les ont poussés d'un côté de la salle, les séparant ainsi des autres détenus auxquels ils n'avaient pas demandé de remettre ce qu'ils possédaient. Il y avait là 9 religieux et 2 prêtres. Ils leur dirent qu'ils voulaient les amener sur le front pour servir de protection contre les soldats. Et là, le dénommé El Casin leur demanda « Quelles sont les armes dont vous savez vous servir ?» « Aucune, » lui répondirent-ils. Apparemment, contrarié, il leur demanda encore, « Vous n'avez pas fait le service militaire ?» Quelques-uns lui répondirent qu'ils l'avaient fait, mais comme religieux, en enseignant dans les casernes. D'autres ne l'avaient pas fait parce qu'ils étaient trop jeunes, trop jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes frères. Et le frère Augusto dit qu'il savait, lui, se servir d'un mousqueton. El Casin lui répondit ironiquement, « Une bonne arme, une bonne arme. » Et là, ils leur ordonnèrent de se mettre en rang par 3, faisant allusion à la façon dont les frères conduisaient les enfants à la messe du dimanche. Alors l'un d'eux leur dit d'un air moqueur, « Ça, je suis sûr que vous savez bien le faire, 3 par 3. » Ils ajoutèrent, « Vous savez où vous devez aller ?» Et là, les prisonniers répondirent que non, même s'ils pressentaient qu'on allait les mener à la mort, et alors vous irez au front, sur la ligne de feu. Quand ils vous verront, nos ennemis ne tireront plus. Le curé a demandé la parole, ce qui lui fut accordé. Alors, permettez au moins aux prêtres de revêtir leur soutane. Si nous sommes habillés en civil, ils ne nous reconnaîtront pas, et vos désirs ne se réaliseront pas. Alors là, El Casin s'arrêta un moment pour réfléchir. Il a dit, « Non, ils croiraient que nous sommes sous une monarchie alors que nous sommes en république. » Il détestait vraiment les prêtres. Et les deux membres du comité et quelques autres personnes qui venaient d'arriver se sont réunis à l'écart pour prendre une décision. Et là, revenant ensuite vers le groupe, ils comptèrent avant de dire 11 et les deux carabiniers 13. Et ceux-ci ne peuvent pas rester parce qu'ils devront combattre. Il y en a deux de trop. Et il n'y a pas de place pour tous dans le camion, parce que beaucoup d'entre nous doivent les accompagner. Alors les deux carabiniers étaient des officiers, le lieutenant-colonel Luengo et le commandant Munoz. Arrêtés à Oviedo, ils avaient été transportés à Turon comme otages. Toujours aussi hypocritement, mais les membres du comité ont ordonné que les prêtres de la paroisse sortent des rangs. Tous deux obéirent. Vu son mauvais état de santé, l'aumônier Don Martinez n'était plus avec eux. Et après quelques questions, ils reçurent l'ordre de rester là. Alors, Castagnon dit aux autres « En marche ». Et à ce moment, convaincus que les prisonniers étaient conduits à la mort, les deux prêtres levèrent leur main droite en signe d'absolution. Ce qui est exposé jusqu'ici est absolument exact. Les détails proviennent d'un document qui a été rédigé par les deux prêtres quelques jours après les faits. Ce qui suit maintenant a été reconstitué à partir des témoignages rendus par des responsables de l'exécution, ceux qui ont exécuté les meurtres. Là. C'est ceux-là. Devant la façade, il y avait une vingtaine d'hommes armés. La voix de Castagnon se fit de nouveau entendre. « Savez-vous où vous irez ?» Le frère Augusto répondit « Au nom de tous, nous irons où vous voudrez. Nous sommes prêts à tout. » Castagnon déclara « Alors, vous mourrez comme rebelles. » Les prisonniers ne manifestèrent aucune peur. Ils obéirent à l'ordre de se mettre en colonne de deux. Et le père Innocencio, le passionniste, se trouvait derrière. Il leur fallut 8 ou 10 minutes à pied là, pour arriver au cimetière. Ils empruntèrent le sentier qui longe le bois. Ils furent obligés d'attendre à l'entrée du cimetière parce que le gardien n'était pas encore arrivé. Castagnon ordonna alors à quelqu'un de l'endroit d'aller le chercher. Finalement, il arriva, il a ouvert la porte. Là, les prisonniers reçurent l'ordre d'avancer jusqu'au milieu du cimetière. Une fosse d'environ 9 mètres de long avait été creusée. Et les frères ont dû s'aligner devant. De là, ses frères des écoles chrétiennes pouvaient voir à 300 mètres seulement le bâtiment de leur école. C'est la dernière chose qu'ont vu ces martyrs. Castagnon donna l'ordre de faire feu et les condamnés sont tombés criblés de 2 décharges successives. Certains qui donnaient encore signe de vie furent achevés d'un coup de pistolet. Le frère Cirillo et le lieutenant-colonel furent en outre frappés avec une masse trouvée près de là. Le fossoyeur reçut l'ordre de recouvrir les corps de terre. Il obéit et s'en alla. Là, les assassins retournèrent également chez eux. Et écoutez bien ça, déconcertés par la sérénité des victimes qui n'avaient émis ni lamentation ni protestation. Si je vous ai tout lu ça, c'est surtout pour vous lire le paragraphe suivant. Quelques jours plus tard, alors qu'il se trouvait incarcéré à Mieres, le fameux Castagnon, là, qui a commis ses crimes, a reconnu, et c'est le texte même de ses paroles, « Les frères et le père ont écouté tranquillement la sentence et sont allés au cimetière d'un pas calme et assuré. Ils savaient où ils allaient et s'y sont rendus comme des brebis à la boucherie au point que moi, qui suis un homme dur, j'ai été ému par leur attitude. Il m'a semblé que lorsqu'ils marchaient, puis qu'ils attendaient devant la porte, il priait à voix basse. C'est le témoignage de leur exécuteur. Quand on parle de Gandhi, n'est-ce pas, qui a été très pacifique, quel homme admirable, quel Mahatma Gandhi, dont je vous raconterai sans doute un jour la vie, qui est pourtant bien connu. Pensons aussi que dans le christianisme, d'humbles frères des écoles chrétiennes d'Espagne, comme le frère Benjamin Julien, Benjamin Julian, de son nom Vicente Alonso Andrés, qui avait un caractère noble, spontané, simple et cordial, qui était né dans la province de Burgos le 27 octobre 1908. T'as lui donné quoi? 26 ans. Et dans cette agglomération ouvrière où il a puisé le caractère énergique et la grande sincérité que son travail lui a permis de développer, tous ceux qui l'ont connu l'admiraient. Il a eu à surmonter les difficultés dans les études à cause de l'insuffisance de ses connaissances antérieures. Il venait d'un milieu très simple. Il a dû faire preuve d'une grande patience dans le déroulement de sa formation religieuse, son noviciat ayant été prolongé. Sa première profession d'ailleurs a été reportée jusqu'en 1926. Il était très jeune. Il avait à peine 18 ans, même pas. Il en fut de même lorsqu'il a pas su réussir tout de suite à s'imposer en classe dans sa première communauté à Saint-Jacques de Compostelle, au grand lieu de pèlerinage d'Espagne. C'est difficile pour un jeune frère de commencer à enseigner. Souvent, on les faisait enseigner peut-être trop jeunes aussi. On avait ce tort. Lorsqu'en pleine maturité, avec beaucoup de décision, il a fait sa profession perpétuelle, le 30 août 1933, un an avant sa mort, il a recueilli enfin les fruits de sa constance, de sa fidélité, de sa générosité dans ses relations avec ses frères des écoles chrétiennes et les supérieurs aussi. Il avait cette noblesse morale et spirituelle pour lesquelles il avait tant lutté au cours de ses années de formation. Et toujours à Saint-Jacques-de-Compostelle, il avait consacré 6 années de son apostolat d'éducateur dans un collège. Il s'y était fait aimer et respecter. En 1933, quand il a dû changer de résidence, les élèves, comme toutes les familles, en ont été affligés et ont cherché même à l'empêcher de partir. Et c'est pourtant avec une entière disponibilité, bien qu'avec nostalgie, qu'il a accepté la décision de ses supérieurs de se rendre à Turon. Ceux qui l'y ont vu enseigner et agir au cours de l'année, une seule année qu'il a passée dans cette communauté, n'ont pas oublié sa bonne humeur, son sens de l'hospitalité, ainsi que l'optimisme qu'il conservait dans ses réparties, ses jugements sur la situation du moment, hein. Les événements locaux et les difficultés. Tant de simplicité et de force ne pouvaient émaner que d'un cœur qui était rempli de ce Dieu à la rencontre duquel il a été appelé très jeune. Quant au frère Augusto Andrés, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de son nom Roman Martinez Fernandez, c'était d'un caractère décidé, lui. Aimable, il était né à Santander en 1910, donc deux ans plus jeune que l'autre encore. Ça veut dire qu'il n'avait que 24 ans quand il est mort. Son âme s'est orientée vers Dieu dès ses premières années. De son père, qui était un militaire de profession, il avait hérité le sens de la prévision, de l'ordre, et de sa mère, qui était une femme pieuse et simple, il avait acquis cette gentillesse que tous les professeurs et ses compagnons et ses élèves admiraient, une grande gentillesse. Il était élève de l'école Saint-Joseph du Cercle catholique de Santander, et là il a appris à estimer cette vocation des frères des écoles chrétiennes, la vocation des enseignants, des formateurs de la jeunesse. Et alors a né en lui le désir d'imiter de si bons exemples. Mais sa mère, qui était veuve depuis peu, n'acceptait pas facilement de le voir s'éloigner. C'était le fils unique, le garçon unique, le fils aîné d'une famille où il y avait des filles par la suite. Et celui-ci, ce garçon, étant tombé malade, Eh bien, la mère a fini par insister davantage pour le garder à la maison. Et devant la gravité de la maladie, elle a promis finalement à Dieu d'accepter ses plans s'il permettait enfin à son fils de guérir. Alors là, il est entré le 8 août 1922. Il avait 14 ans. Le courage de ce tout jeune adolescent dans son travail, la façon dont il s'est intégré très harmonieusement dans la vie du groupe, ont suscité chez tous l'admiration. Il en fut de même au noviciat où il a émis ses premiers vœux en 1927, à 19 ans, avant de recevoir avec enthousiasme sa première obédience pour une école à Valladolid. Il est arrivé là en 1929 et s'y est fait remarquer par la préparation soignée de ses cours. Un de ses frères avait le temps de préparer leurs cours. Les vrais bons frères, je parle pas de ceux qui pouvaient être paresseux ou négligents, je le sais qu'il y en avait. Mais en grande partie, moi, ce que j'ai vu dans mon enfance, ils préparaient vraiment leurs cours, ils avaient le temps de les préparer. Ils n'étaient pas pris par une femme, des enfants et toutes sortes de problèmes. Et Dieu sait qu'il y a des hommes mariés qui préparent admirablement bien leurs cours. J'ai des amis mariés qui sont extraordinaires. Quel courage ils ont d'élever une famille et de préparer des cours en même temps. Ça doit être très difficile. Excellents éducateurs aussi. Mais ses frères avaient encore plus de liberté. Il a été très regretté. Lorsqu'au bout de 2 ans, il a dû quitter Valladolid pour se rendre à Palencia, pour faire son service militaire, il est resté ensuite à la communauté de Palencia jusqu'à ce que la dispersion de 1933, dispersion des frères et des religieux, l'a amené à Turon. Et là, sa résolution et son courage jusqu'au dernier moment furent un bel exemple pour ses compagnons. Autant qu'on puisse le savoir, ce fut lui qui s'est adressé le dernier aux assassins. Et ses paroles pleines de force exprimait l'acceptation du martyr de la part de ses frères, dont le cœur de chacun était consacré à Dieu. Les autres frères s'appelaient Benito de Jésus, Anicetto Adolfo ou Anicet Adolphe, si vous voulez. Puis il y avait le frère Julien Alfred. Et évidemment, le passionniste, le père Innocencio, mais il y avait aussi le frère Cirillo, le frère Marciano et le frère Vittoriano Pio. Je cite les noms qu'on oubliera, mais ce sont des noms qui ont marqué l'histoire de l'Église en Espagne. Ces 9 religieux qui ont été conduits comme ça devant la fosse où ils ont été enterrés pour être exécutés. Il y a eu aussi tous les chrétiens qui ont été exécutés en même temps qu'eux. Mais eux seuls, on peut dire, étaient coupables du délit singulier et impardonnable. Ils étaient des éducateurs religieux. Ils avaient enseigné la prière aux élèves de leurs écoles. La prière, quelle atrocité, enseigner à prier, hein? C'est abominable. Ils avaient enseigné aussi aux jeunes que Jésus était vivant, mais que Jésus enseignait l'amour. Quelle atrocité, hein? C'est affreux d'enseigner des choses comme ça. Ils sont morts à cause de ça. La messe d'aujourd'hui commence par ce très beau texte. Portons notre regard vers l'homme Jésus, à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix, « Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. » J'espère que son pouvoir s'étend sur la terre, et en effet, chez les frères des écoles chrétiennes, il y a 300 aspirants. Il y a environ 150 novices à travers le monde. Je crains fort qu'il n'y en ait aucun ici. Notre pays est déchristianisé. Espérons qu'il reviendra à la foi avec le temps. Espérons. Je vous ai parlé tout à l'heure de Saint-Denis, premier évêque de Paris. Il est pour nous, francophones, français de souche, ce premier évêque de notre peuple, lorsque nos ancêtres, qui vivaient en France, se sont convertis eux-mêmes au catholicisme. Ils ont pu trouver sous la juridiction de ces évêques la foi en ce Christ, Jésus, qui nous manque ici de plus en plus. J'étais à la messe samedi chez les Jésuites où Jésus y avait si peu de monde. Mon cœur était brisé, nous étions quoi, 25, dans cette grande église. Les gens ne comprennent plus rien de la joie que nous avons d'aller à la messe et de recevoir le corps du Christ, de l'offrir à Dieu son Père, dans un geste d'amour, amour vivant qui est l'Esprit Saint lui-même qui nous porte dans le cœur du Père pour y vivre, car nous vivons en Dieu dès ici-bas, la vie éternelle est commencée, et pour l'éternité, nous voulons vivre avec Dieu. Nous, chrétiens, quelle joie nous avons et comment la transmettre. J'espère que cette émission vous permet de comprendre à travers le sacrifice de ces frères des écoles chrétiennes combien la formation chrétienne est une grande formation qui permet à des gens comme ça de mourir avec un grand abandon, sachant que la vie éternelle est là, mais sachant aussi que rien ne sert de crier et de murmurer. Mieux vaut être paisible, calme devant les tourments, et faire ce que nous avons à faire. Le devoir d'État, c'est là qu'on rencontre Dieu. Quand on fait ce qu'on a à faire, Dieu est là.